Chers amis des cellules, bonjour. Ce dimanche, nous reprendrons le cours des dimanches ordinaires avec la 11e semaine qui débutera. Nous entendrons de l'évangile selon saint Marc les versets 26 à 34 du chapitre 4. Nous sommes à une nouvelle étape de l'annonce du royaume de Dieu. Dans une première étape, le Christ a manifesté sa puissance, notamment face aux démons et face aux maladies. Il a manifesté sa puissance et commencé à accomplir les signes que l'on attendait de la part du Messie. Le dévoilement de cette puissance a entraîné cependant une résistance dans les chapitres 2 et 3 de l'Évangile selon saint Marc. On entend Jésus, on voit Jésus, mais bousculé, on commence à se demander s'il n'est pas possédé par un démon, si ce n'est pas par la puissance de Béelzéboul qu'il fait ses exorcismes et ses guérisons. Certains estiment qu'il a perdu la raison. Commence alors une nouvelle étape où Jésus enseigne, mais enseigne en parabole. Écoutons l'évangile de dimanche prochain. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord de l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Je voudrais m'arrêter avec vous plus particulièrement sur les derniers versets. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. La première chose à remarquer, c'est que les controverses n'ont pas dissuadé Jésus d'annoncer la parole. Jésus leur annonçait la parole. La révélation se poursuit. La mission qu'il a reçue du Père, il la mènera jusqu'au bout. L'adversité ne fait pas taire la parole de Dieu. L'adversité ne rend pas muette la parole que Dieu veut nous adresser. Cependant, la façon dont la parole est donnée, la façon dont la révélation est livrée, va, elle, être adaptée. Le texte dit en effet, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, littéralement, selon la capacité d'entendre qu'ils avaient. Donc l'adaptation ne vient pas d'une peur de celui qui annonce ou d'une volonté de se protéger. L'adaptation de la parole vient de la capacité ou de la non-capacité des auditeurs. Jésus adapte sa parole en fonction de la capacité d'écouter des auditeurs. Or, la capacité d'écouter des auditeurs ici ne dépend pas du fait d'avoir des oreilles ou d'avoir le sens de l'ouïe. Ils ont tous des oreilles, ils ont tous le sens de l'ouïe. La capacité d'entendre, la capacité d'écouter va dépendre d'un engagement du cœur, d'un engagement de la liberté. Les auditeurs vont-ils accepter d'être bousculés par la parole qu'ils entendent? Vont-ils engager leur liberté pour comprendre ce qui les bouscule? Ou bien vont-ils choisir de ne rien faire de plus? C'est pourquoi Jésus recourt au registre des paraboles. Une parabole, ce n'est pas d'abord une image pour illustrer ce que l'on est en train de dire. Une parabole, ce n'est pas une histoire que l'on raconte pour rendre aux auditeurs plus accessible la notion qu'on voulait évoquer. Une parabole, c'est toujours une énigme. Une parabole, c'est un sens qu'il y a à décrypter. Elle renvoie à autre chose. Si bien que deux groupes se forment. D'un côté, il y a ce qui sera le groupe de la foule. Je dis, tu as compris, toi, la parabole? Non, ben moi non plus. Ben on rentre chez nous. Et de l'autre, il y aura les disciples, pas seulement les apôtres, mais aussi les apôtres et les disciples, qui s'approchent de Jésus et qui lui demandent, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par cette parabole? Qu'est-ce que ça signifie? Ils vont auprès de Jésus, ils engagent leur liberté pour recevoir de Jésus le sens, la portée de l'enseignement qui a été donné. Il y a cette rencontre, on pourrait dire, de la liberté de Jésus qui révèle et la liberté des auditeurs qui veulent recevoir la plénitude de cette révélation. Cela nous amène à réfléchir notre comportement et notre rapport à la parole de Dieu. Est-ce que nous avons le désir d'entrer dans la parole de Dieu, d'entrer dans la plénitude de la lecture des Écritures? Est-ce que nous restons seuls de notre côté, ou est-ce que nous allons auprès de Jésus pour poser nos questions, pour demander le sens, pour chercher le sens? Et est-ce que nous y allons aussi ensemble? Il faut se rendre compte que les disciples et les apôtres se retrouvent ensemble devant Jésus pour l'interroger. Et donc, il y a dans la vie chrétienne cet engagement de la liberté pour partager la parole de Dieu, pour recevoir un enseignement sur la parole de Dieu, pour débattre de la parole de Dieu. Si je ne suis que tout seul face à mon texte de l'Écriture, eh bien je risque de regarder sans voir et d'écouter sans comprendre. Un chrétien se doit de mettre en place des lieux, des temps, où il discute de la parole de Dieu à plusieurs, où il reçoit un enseignement sur la parole de Dieu. C'est en partie ce qui se passe à la messe pendant l'homélie, mais c'est aussi ce qui se passe dans les cellules, dans cet échange, sur ce partage sur la parole de Dieu. Si nous restons sans poser nos questions, sans échanger sur l'Écriture que nous entendons, alors en fait nous revenons au niveau de la foule qui ne comprend pas. Je voudrais maintenant relever un deuxième aspect qui est évoqué d'ailleurs dans les deux paraboles que Jésus a citées. Dans ces deux paraboles, il y a un regard qui est posé sur une croissance, une capacité de croissance que possède la semence elle-même, la semence qui représente le royaume. Le royaume a une capacité de croissance. C'est le grain qui pousse sans que celui qui a semé ce grain sache vraiment comment et sans qu'il intervienne à chaque moment. Il y a une puissance de développement de ce grain qui est en terre et qui va trouver cette croissance jusqu'à donner du fruit. Et c'est pas le jardinier qui tire sur la plante qui l'a fait pousser. Elle a un principe de développement qui lui est propre. Et cela nous amène à comprendre que l'homme est face à une puissance qui n'est pas simplement la sienne. Tout ne dépend pas de la maîtrise de l'homme, de la capacité à produire de l'homme, mais il y a l'accueil d'une puissance de fécondité qui n'est pas celle de l'homme et qui sera du coup en fait celle de Dieu, celle du Christ. Cela nous amène à reconnaître que la clé de compréhension des paraboles est la personne même du Christ, du Verbe qui s'est fait chair, de Dieu qui s'est incarné. Une parabole n'est pas simplement un message qu'il faudrait décoder. Une parabole ne donne son sens qu'en lien avec la personne de Jésus. Jésus n'est pas simplement la clé de déchiffrement dont on n'aurait plus besoin par la suite. Sa présence est la condition de l'intelligibilité de la parabole et sa mise en pratique implique un rapport personnel avec Jésus, le Verbe qui s'est fait chair. Donc en interprétant une parabole, je dois toujours me poser la question, en quoi modifie-t-elle mon rapport personnel avec Jésus? En quoi le rapport avec Jésus est-il éclairé au cœur de cette parabole? Ainsi, on peut tirer une grande espérance et une grande audace de la première parabole que dit Jésus, cette semence qui croit par elle-même. Cette semence peut être interprétée comme la parole de Dieu, Elle a donc une puissance, une capacité à grandir dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Ce qui signifie que nous devons avoir cette confiance que la parole peut être semée dans tous les cœurs que nous rencontrons. Pourquoi? Parce que même si la terre est pauvre, la terre de ces cœurs est pauvre, la semence de la parole de Dieu a son propre dynamisme qui saura grandir. Au-delà de notre capacité ou de notre maladresse de semeur, au-delà de la pauvreté ou même de la richesse de la terre qui la reçoit. Le cœur de tout homme peut recevoir la parole parce que la parole a son propre dynamisme pour y grandir. Donc ne nous censurons pas, je veux dire, et en particulier avec notre oïkos, il est fait, son cœur est fait pour entendre cette parole de Dieu qui a son propre dynamisme. Encore un aspect à souligner. Le royaume de Dieu vécu, c'est la façon dont Jésus vit en son humanité. Et donc lorsque nous parlons de Dieu, nous devons parler de Jésus et de comment Jésus vit. Nous nous censurons parfois un peu pour être consensuels et nous n'osons que parler de Dieu de façon générale, alors que nous sommes appelés à parler du Verbe qui s'est fait chair, à parler de Jésus, Dieu qui a pris notre humanité, qui est mort et ressuscité pour nous dans une humanité semblable à la nôtre. C'est cette humanité de Jésus qui offre des branches où les oiseaux de la terre, qui représentent toutes les nations païennes, trouveront où se poser, où s'abriter. C'est le concret de l'humanité de Jésus qui offre cet abri. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être deux choses plus particulièrement. La première, ce qui distingue les disciples de la foule, c'est que les disciples vont poser des questions à Jésus. Ils interrogent ce qu'ils ont entendu. Ils discutent entre eux. Ils demandent à Jésus une explication. Et donc, est-ce que nous sommes des disciples qui allons demander un éclairage sur ce que nous avons entendu? Ou bien sommes-nous comme la foule et nous ne comprenons pas, mais nous ne prenons pas la peine d'interroger quoi que ce soit. Donc sommes-nous simplement de la foule ou sommes-nous des disciples qui allons interroger? Et si nous ne le faisons pas, que pourrions-nous faire pour justement que cela advienne? Deuxième élément à retenir, la relation dans les paraboles à la personne de Jésus. Les paraboles ne sont pas des maximes de sagesse indépendantes, elles sont là pour développer, fortifier, éclairer une relation à Jésus, le Verbe qui s'est fait chair. Je vous souhaite de bons échanges.